Good Morning Business, parole de patron.
Notre invité ce matin, c'est Benoît Labrousse. Bonjour, vous êtes le président de Randstad France. On va parler ensemble des questions d'emploi et de recrutement dans la défense. On a ce matin cette loi de programmation militaire qui doit être présentée en conseil des ministres. Enfin, ça ne change rien, même si on a une rallonge qui est annoncée aujourd'hui, ce qui est prévu. Les besoins sont immenses dans les questions industrielles de défense. Est-ce que cette industrie, depuis quand même la guerre en Ukraine, elle a retrouvé des couleurs avec des gens qui sont plus attirés par ce type de métier qu'auparavant?
Bonjour. Alors, en effet, je pense qu'il y a plusieurs éléments sur ce point. La LPM a donné de la visibilité. Donc maintenant, les industriels savent quels sont les budgets qui seront disponibles pour les années à venir. Maintenant, c'est comment on fait pour produire. Et pour produire, il y a besoin de bras, il y a besoin encore de compétences humaines, largement. Et un des sujets sur lequel l'industrie de défense a beaucoup travaillé, c'est sa marque employeur. Et je pense que à la fois la situation géostratégique et aussi la façon dont on a positionné la défense sur le débat, qui est vraiment une question de comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on assure notre souveraineté, a radicalement changé cette image de marque employeur, ouais. Et qui est maintenant attractif pour les personnes.
C'est que c'est positif maintenant.
En tout cas, c'est la perception que l'on voit sur le marché. C'est quelque chose qui devient utile, pertinent et qui donne un sens aux personnes qui s'y engagent.
Donc avec des profils que vous voyez arriver sur le marché de l'armement, si je puis parler ainsi, qui n'y avait pas auparavant. J'imagine des ingénieurs qui reviennent vers ce type de secteur.
Alors en fait, l'industrie de défense est très diverse. On a entre 4 et 5 000 entreprises qui travaillent dans l'industrie de défense et selon les cas, les besoins en compétences sont très différents. Vous mentionniez les ingénieurs, par exemple, dans les domaines de la cybersécurité. En effet, on a besoin d'ingénieurs en cybersécurité. On a besoin d'ingénieurs pour concevoir les dispositifs d'armement. Et on a aussi besoin de techniciens, d'opérateurs, d'ajusteurs, de métiers à très haute technicité, des métiers manuels, de production. Et donc, l'ensemble de ces types d'activités sont aujourd'hui disponibles, actifs au sein de l'industrie de la défense. Donc, en fait, le panel de compétences qui est recherché est très large, ce qui permet à chacun déjà de pouvoir se dire « je peux avoir une voix dans l'industrie de défense », mais qui pose aussi le sujet de comment je fais pour recruter l'ensemble de ces compétences à l'avenir pour assurer la production.
Sachant que dans ce que vous nous dites là, on entend quand même une grosse concurrence avec les métiers du nucléaire, où c'est quand même des profils qui sont assez similaires.
Alors en effet, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, je vous disais à peu près 4 à 5 000 entreprises, c'est à peu près 200 000 emplois directs hein, dans l'industrie de défense. Sur ces 200 000 emplois directs, aujourd'hui, on estime qu'il en manque 10 000. Donc il y a un vrai sujet de comment on fait pour les trouver. Et le plus compliqué, c'est que ces 10 000 emplois qui manquent sont dans des métiers en tension. C'est-à-dire des, je vous parlais de métiers à haute technicité, des soudeurs ou des usineurs sur des matériaux, des aciers par exemple, extrêmement techniques. Ce sont des compétences qui rentrent directement en concurrence avec le nucléaire ou avec d'autres industries de précision et sur lesquelles, comment on fait pour construire ces compétences? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elles n'existent pas réellement, ou en tout cas en nombre très restreint. Donc, c'est comment on fait pour construire à l'avenir ces compétences? Comment est-ce que, j'allais dire en temps moyen-long, on remet en avant ces filières de formation, formation initiale? Et comment on fait pour mettre en place les dispositifs de reconversion qui permettent de reconstruire ces types de compétences qui viennent à manquer?
Il y a aussi un sujet dans l'industrie de la défense qui est administratif. Ça peut attendre 250 jours pour avoir un délai d'habilitation des candidats. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez passé tous les freins administratifs, j'imagine qu'il y a des profils qui sont peut-être vérifiés dans certains domaines. Si vous perdez le candidat après ça, parce qu'en fait, ça l'intéresse pas ou que finalement, il est pris ailleurs, là, vous perdez gros quand même.
Ah, c'est un vrai sujet. Je pense que il y a plusieurs choses qu'on a commencé à regarder, y compris avec le ministère de la Défense. Hein, c'est comment est-ce que potentiellement il peut y avoir des dispositifs d'habilitation très en amont au cours des processus de recrutement. Et je pense notamment notre activité est essentiellement dans l'intérim, par exemple. Si vous voulez mettre des personnes en intérim sur des postes qui requièrent ce type d'habilitation, comment est-ce qu'on fait pour anticiper au tout début de l'identification du besoin cette habilitation?
On ne peut pas vérifier tout le monde.
Non, on ne peut pas vérifier tout le monde. On peut se demander est-ce qu'on ne peut pas créer des structures. Donc nous, on fait du service RH, des services RH avec, alors, je ne vais pas dire pas le mot habilitation, mais un label défense. Ce qui fait que nous, on passerait un certain nombre de choses, on se structurerait, on assurerait peut-être un certain nombre de vérifications en amont qui permettrait d'aller plus vite ensuite sur l'habilitation en elle-même. Donc ça peut être des éléments de ce type-là. Deuxième point, c'est sur les 200 000 emplois directs, toutes ne nécessitent tous ne nécessitent pas l'habilitation. Ouais. Donc comment on fait aussi pour s'assurer que cette demande, elle se concentre sur les postes qui le requièrent vraiment, et il y en a définitivement, mais comment on fait pour s'assurer que l'on le fait sur les postes qui le nécessitent réellement pour pouvoir accélérer la mise en poste et, comme vous le dites, ne pas perdre des candidats au milieu de cette vérification.
Près de 30% des salariés de l'industrie vont prendre leur retraite d'ici 2030. C'est énorme.
C'est énorme.
Mais alors là, on a encore parlé du choc démographique ce matin en disant qu'il y aurait 1,7 million d'écoliers en moins d'ici 2035. On va avoir un trou, quoi, un problème de recrutement énorme.
On va avoir un problème assez important. C'est aujourd'hui, il en manque 10 000. D'ici 2030, 30 à 35% de départ à la retraite. Ça fait 60 à 70 000 postes qui disparaissent et à périmètre constant. Et on sait qu'on va accélérer. Donc en fait, c'est peut-être pas loin de 100 000 emplois qu'il faut pourvoir dans cette industrie de défense d'ici 2030. C'est difficile, c'est à la fois une bonne nouvelle. Ça donne des perspectives de carrière et d'emploi.
C'est-à-dire que la main va être aux salariés quand même, clairement.
Un petit peu. Mais sur ces qualifications très recherchées, c'est déjà le cas aujourd'hui sur le marché du travail. Et nous, on le voit lorsqu'on cherche ce type de profil pour les mettre en intérim, c'est un intérim complètement choisi de la part des personnes qui, comme ça, choisissent leur mission, choisissent leur rythme de travail. Donc, en effet, c'est quelque chose qui nous attend pour l'avenir et sur lequel je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer pour fluidifier ce monde du travail.
Dernier point sur la cybersécurité. On a vu beaucoup de formations se monter. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a les compétences dont on a besoin ? Il y a encore beaucoup de gens à former ?
Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens à former. La cybersécurité, on va le retrouver dans le monde de la défense, mais de manière très large dans l'ensemble.
Oui, tout le monde en a besoin.
Exactement, dans l'ensemble des entreprises qui ont besoin de sécuriser leurs architectures. Vous parliez juste avant d'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment les sujets sur lesquels aujourd'hui il y a une tension et une concurrence mondiale. Dans le monde de la défense, on a moins de concurrence mondiale parce que ça reste une industrie très localisée. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour former des personnes que l'on va garder en France sur ces types de sujets.
Est-ce que vous voyez des candidats un peu avec une démarche justement assez souveraine en disant moi je ne bosse que dans des boîtes françaises avec cette vision très chauvine ?
Alors c'est une vision très chauvine, je ne sais pas, mais qui en tout cas se disent je veux être dans une filière qui est une filière qui me donne un sens à ce que je fais. Je dirais plus qui donne un sens à mon activité plutôt que chauvine, mais je participe à un équilibre positif pour la société française. Très clairement, et c'est de plus en plus le cas dans les jeunes qui rentrent dans le monde du travail, qui recherchent un sens dans ce qu'ils font. Certains vont être attirés par cet aspect de souveraineté, d'autres par d'autres sujets, mais clairement, la dynamique de souveraineté joue un rôle dans cet espace-là.
Merci beaucoup Benoît Labrousse d'être venu ce matin pour Randstad France dans la matinale de l'économie.